On est de retour, 19 degrés présentement sur Québec. Ça va se réchauffer un peu d'ici la fin de la semaine. On va peut-être avoir du 24 degrés autour de vendredi. Donc, on voit un petit réchauffement des températures. Rien de drastique, là, mais peut-être que l'été va effectuer un petit retour d'ici à la fin de la semaine. Mais c'est quand même assez agréable actuellement à l'extérieur avec un beau soleil et 19 degrés. Très intéressant, très, très intéressant ce matin. Le baromètre léger. Tu sais, les baromètres, là, des fois, on en parle un peu dans l'émission, on en parle un petit peu à la légère.
Genre, des fois oui, des fois non. Ça dépend. Ça.
Baromètre, mettons, de qui est le plus grand chanteur de l'histoire du Québec, etc., etc. Mais ce matin, je trouve ça foutrement intéressant. C'est un baromètre concernant vos priorités électorales, les priorités électorales des Canadiens. Puis quand je regarde la campagne, je lis, j'écoute ce qui se dit. Tu sais, par exemple, depuis jeudi, le sujet numéro un, des reportages, des chroniqueurs politiques, des reportages politiques, c'est la question idiote de la modératrice du débat en anglais concernant la loi 21, la question qu'elle a posée à Yves-François Blanchet, qui était une question qui avait aucun bon sens. Et là, t'as l'impression à lire les articles de journaux, puis bon, t'as l'impression que c'est ça l'enjeu. T'as l'impression là que, puis c'est sûr que les nationalistes québécois et même les séparatistes, ils ont vu quelque chose là-dedans, là. C'est, ils ont vu une belle opportunité dans ça de faire du un peu de Canada bashing, parce qu'en réponse des fois au Québec bashing, ils sont capables de faire un peu de Canada bashing aussi en réponse. Puis c'est de bonne guerre. Moi, j'ai rien contre ça. Je veux pas les empêcher de faire ça non plus. Mais quand on regarde les priorités des gens, les vraies priorités des électeurs, t'sais, moi, je suis pas surpris de voir à 13,5% numéro 1, ce qui devrait être la priorité du prochain gouvernement, c'est le coût de la vie et l'inflation. Ça, c'est clair, tout le monde le voit. Le coût du panier d'épicerie, le coût des objets de consommation, les sorties, les loisirs, etc., etc. C'est l'inquiétude numéro un. Ça, je suis convaincu de ça présentement. Tout le monde voit ça aller. Tout le monde se dit, ouais, qu'est-ce qui va se passer quand l'argent artificiel va disparaître aussi? Ça va être quoi l'impact de ça quand l'aide financière aux entreprises? Je sens que les gens sont très, très inquiets de ça. Numéro deux, l'augmentation du financement en santé. 11,5%. Et c'est là, c'est pour ça que je vous ai dit qu'à mon avis, dans le premier débat en français, je trouvais que Justin Trudeau avait été le perdant, dans le deuxième aussi, parce que c'est dans les priorités, évidemment, avec la COVID. Puis COVID, pas COVID, on s'entend, Joe, que c'est dans les préoccupations. Et donc, l'augmentation du financement en santé, les fameux transferts, vous connaissez l'enjeu actuellement? Il y a des transferts en santé qui sont promis, mais Justin Trudeau semble vouloir dicter un peu les choix des provinces, notamment les choix du Québec. C'est ce qui fait que François Legault est en beau tabarnouche contre Justin Trudeau et incite les Québécois à voter soit pour les conservateurs ou soit pour le Bloc. On sait plus trop là, c'est quoi le choix préféré du premier ministre
Legault. Pas pour les libéraux.
Mais pas pour les libéraux. Donc ça explique un peu ce qui est en train de se passer. Numéro 3, la reprise économique post-pandémie à 10,9%. C'est un peu connexe avec le numéro 1. Donc, si tu additionnes les deux, je te dirais qu'on est à du 23-24% de gens qui sont préoccupés et qui pensent que la priorité, ça devrait être l'économie. Numéro 4, ben c'est ça. On est encore en pandémie, donc 10,1% répondent que la priorité, ça doit être la gestion de la pandémie. Ensuite, numéro 5, les impôts que paient les Canadiens, 8,5%. On va y arriver à l'environnement, là. Ça sera pas long, on arrive dans les priorités, là. Numéro 6, l'accessibilité au logement, 8,4%. Et numéro 7, la lutte au changement climatique, 8,2%. On voit bien, on réalise très bien que ça fait partie des priorités des gens. Mais des fois, quand tu entends encore une fois les commentateurs, quand tu entends aussi certains politiciens, tu as l'impression que c'est ça qui est numéro 1. Alors que c'est important, les gens veulent en entendre parler. Je pense qu'un parti qui aurait pas une politique responsable là-dessus, je pense que c'est un parti qui se mettrait un peu le doigt dans l'œil. Mais il faut arrêter de penser que c'est la priorité au sommet de la pyramide. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Les gens pensent à ça. Mais il y a un paquet d'autres choses qui sont prioritaires pour les gens.
J'ai fait un petit calcul en t'écoutant, là, parce que tu as additionné le numéro 1 et 3, c'est-à-dire coût de la vie, inflation et reprise économique. Mais on peut aussi ajouter le numéro 5, les impôts que paient les Canadiens et la réduction des déficits. Et si on additionne donc ces quatre priorités-là qui sont dans le top 10, c'est 41,9%. On arrive à près d'une personne sur deux qui a une priorité qui est de nature économique. Moi, je trouve ça bien intéressant, mais il y a juste une chose qu'il faut faire attention, parce que je lis l'analyse qu'il y a en dessous du baromètre, là, puis bon, il y a toujours Philippe Léger, le fils de Jean-Marc Léger, qui veut, qui va, j'imagine, reprendre un peu là, les rênes de ce que ça, ce qu'a bâti son père en analysant des sondages, en faisant des sondages. Et il dit, quelle sera la question de l'urne? Notre baromètre indique qu'elle tournera autour du coût de la vie de l'inflation. Il y a une distinction à faire entre la question de l'urne...
Et la priorité des gens.
Et la priorité. Ouais. C'est-à-dire que la question de l'urne peut simplement être est-ce que vous voulez encore Justin Trudeau?
C'est ça.
Alors que les gens vont pas nécessairement voter en fonction de... Ils peuvent dire, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est le coût de la vie, l'inflation. Maintenant, est-ce que... T'sais, si on pouvait avoir une question de relance, ce serait est-ce que vous allez voter uniquement en fonction de cette question-là? Ça se peut que la personne qui dit c'est ça ma priorité est ben fâchée parce que les libéraux veulent pas le troisième lien à Québec, mettons.
Ou
elle va voter pour le Bloc parce que ce qui s'est passé la semaine passée, ça faisait pas son affaire. Donc, ça veut pas dire que les gens votent en fonction de ça. D'ailleurs, combien de fois qu'on nous a dit dans les dernières années, que ce soit au fédéral ou au provincial, que la priorité des priorités était devenue les changements climatiques. Or, il n'y a jamais un gouvernement qui a été élu en fonction de ses engagements sur les changements climatiques.
Non. Puis encore là, soyons clairs, les gens s'en préoccupent. Mais c'est pas vrai que c'est la priorité. Mais quand tu entends des débats, des analyses, puis je veux pas faire du média bashing jusqu'à 3 heures, moi j'écoute encore les médias traditionnels, puis il se fait du très, très bon travail.
Ben oui.
Mais ça me gosse un peu. Le sujet de l'environnement et des changements climatiques est nettement surreprésenté. Puis dans le discours des chefs aussi, là, c'est nettement surreprésenté par rapport aux vraies priorités. Puis encore là, je dis pas qu'il faut pas s'en préoccuper. Et les autres affaires, ben réduction de la pauvreté et de l'itinérance, 7,7. Réduction des déficits publics et de la taille de la dette fédérale. Ça, c'est 9e à 6,7%. Ça, je pense que le déficit, ça semble abstrait pour bien du monde. On sait plus combien de milliards. Là,
ben, l'argent, c'est comme de la pâte à dents. Il y en a tout le temps. Il en reste tout le temps.
10 milliards de plus, 100 milliards de moins, 20 milliards de plus. Tout ça devient un peu abstrait. Mais ça, moi, je te dirais que même moi, qui est préoccupé par les finances publiques, je suis un peu d'accord. Moi, c'est pas ça qui me stresse le plus présentement. Ben, je sais que le gouvernement empruntait des taux d'intérêt qui sont très bas, puis je suis pas sûr qu'il y avait d'autres possibilités. Si le gouvernement avait pas inondé l'économie d'argent artificiel, je sais pas ce qui se serait passé, honnêtement. Je pense qu'il y aurait des gens qui auraient crevé de faim, tout simplement. Est-ce qu'on a exagéré? Est-ce qu'on est allé trop loin? Probablement. Est-ce qu'on a maintenu trop longtemps des mesures? Clairement oui.
Ah, bonne question.
Clairement oui. Mais le déficit, en tout cas, les gens n'ont pas l'air d'être trop stressés avec ça. Réconciliation avec les peuples autochtones, 3,7%. 2,7% augmentation des places et réduction des frais à garderie. Et 2,2% la réforme du système d'immigration. Ça, les garderies, on voit qu'il y a des partis qui essaient de jouer ça gros aussi. Les libéraux, le NPD aussi. Ça n'a pas l'air d'être si vrai que ça, que c'est le sujet de préoccupation là qui est si important que ça pour les gens. C'est clairement donc l'inflation, l'économie, la hausse des prêts à la consommation qui intéresse les gens. Puis pas sûr qu'il y ait un parti qui a amené des réponses si claires que ça à cette situation-là. Moi, quand tu analyses les débats, on passe beaucoup de temps à parler d'autres choses, mais ça, pas dire que c'est si clair que ça qu'il y a un des partis qui s'est démarqué nécessairement sur cette question-là. Changement de sujet. Autre chose que je trouve importante aussi, le français au cégep. Sérieusement, Joe, je sais pas toi, là, mais je suis tombé en bas de ma chaise ce matin quand j'ai lu qu'on voulait peut-être se servir d'antidote.
J'avais hâte de t'en parler.
Ah oui? Qui était une espèce de correcteur automatique. Je pense que ça peut être utile. Je veux pas dénigrer ça.
C'est moi, je l'ai utilisé pendant des années pour mes chroniques au journal.
Okay.
Parce que je suis pas parfait. Puis à force d'écrire une chronique par semaine, je l'ai passé dans Antidote.
Ouais.
C'est parfait.
Ouais.
Pour, tu sais, plus tard.
C'est ça.
Mais dans ton cheminement scolaire.
C'est ça l'affaire. Moi, je suis fessé de ça. Je suis renversé de lire ça ce matin. C'est-à-dire que là, on songe à permettre l'utilisation d'Antidote pour l'examen de français au cégep. Le but, c'est de faire baisser les échecs en français. Tu sais, on se dit pas faudrait améliorer l'enseignement du français au secondaire ou faudrait améliorer les cours de français peut-être au cégep. Mais tu sais, au cégep, normalement, à mon souvenir, nos 3 cours, on avait-tu 3 ou 4, je me souviens pas, là. 3 ou 4 cours de français, c'était
moi,
plus...
Moi, je pense que c'était 3, mais je me suis arrangé pour en avoir 4.
OK, mais tu sais, c'était plus l'analyse des œuvres littéraires québécoises.
Ouais.
On était moins...
C'était difficile, moi.
De mémoire, on était moins dans l'orthographe, dans la conjugaison et dans ces choses-là. Okay?
C'est pas mal 4, Jérôme.
C'est 4, hein, c'est ouais. Ça, je me souviens pas si c'était 3 ou 4. C'est 3 philo, hein, c'est ça?
3 philo, exactement.
3 philo, exactement ça, dans les cours obligatoires. Bref, Là, pour essayer de faire baisser le taux d'échec, on veut permettre aux étudiants, aux cancres en français et aux autres aussi, parce qu'il semble y avoir quand même trois quarts des étudiants au cégep qui réussissent leur examen de français obligatoire. Mais pour ceux qui ont de la misère à l'examen, on songe à leur permettre de prendre Antidote. C'est épouvantable. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Tu sais, à un moment donné, le français, puis tu dis que t'es pas parfait. Je suis pas parfait moi non plus, Joe. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? J'ai passé mes cours de français au cégep. J'ai passé mon examen obligatoire de français à l'université. Tu sais, à un moment donné, faut que tu étudies là, tes règles d'orthographe, puis tes règles de grammaire, puis ta conjugaison. Puis à un moment donné, c'est un passage obligé. Ça fait partie de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à réussir quand tu es un étudiant collégial. Quand tu veux aller étudier dans un programme universitaire, ben faut que tu aies une certaine maîtrise du français. Si c'est pas du nivellement par le bas, je me demande bien c'est quoi cette affaire-là, là? D'Antidote à l'examen.
C'est drôle parce que j'allais justement dire, des fois, il y a des expressions ou des mots ou des concepts qui, pour le monde, sont... ça demeure un peu abstrait, là. Tu sais, comme justement, j'entendais notre collègue Luc Lavoie à Montréal, là. Il a fait un bout très drôle avec Bernard Drinville sur la notion de paradigme, là. Il dit, ça m'échappe, moi, c'est quoi? Si la notion de nivellement par le bas, c'est quelque chose qui est abstrait pour vous, là, ça, c'est à peu près le meilleur exemple.
Ça en est un exemple.
Si vous demandez, quand on dit nivellement par le bas, nivellement par le haut, ça, là, c'est de dire, regardez, on arrache avec le français. Les jeunes au collège, au cégep, sont pas bons en français. Donc, au lieu de niveler par le haut, puis d'essayer d'améliorer l'enseignement du français, puis de s'assurer qu'on réponde à certains standards, on va tirer tout ça par le bas, en disant, pour des examens de cégep, vous allez avoir accès à Antidote. Mais ça, c'est le ridicule.
Au moment où on vérifie tes compétences, tu vas te faire assister par un logiciel.
Ça
marche pas.
Mais ça, Jérôme, c'est le ridicule. Mais le bout où vraiment le ridicule ne tue pas, c'est qu'il y a des gens là-dedans qui justifient cette possibilité-là, parce que c'est pas une décision qui a été prise, là, soyons clairs, justifient cette possibilité-là en disant que c'est une façon d'apprendre. Qu'à force de te faire corriger par Antidote, tu vas
finir par apprendre.
Assimiler dans le fond. Ouais. Mais c'est ridicule. À la limite, que tu dises à des jeunes, hey, chez vous, vous faites vos des exercices ou des travaux pour ramener à l'école ou quoi que ce soit, vous pourriez utiliser un logiciel de correction, mais regardez c'est quoi les corrections qui vous sont suggérées. Par contre, soyez bien conscient que ça ne peut pas être une béquille, parce que quand va arriver le temps d'être à l'examen, vous n'aurez pas accès à ces ressources-là. Donc, assurez-vous que c'est pas Antidote que les connaissances, que vous les avez. Là, on essaie de nous faire à croire qu'il y a un aspect pédagogique à utiliser Antidote. Voyons donc.
Non. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Sens? Moi, je suis profondément convaincu que le meilleur outil pour apprendre à écrire ton français, c'est de le lire. C'est la lecture. Moi, je crois 100 000 à l'heure à ça, Joe.
Tout à fait.
C'est de favoriser la lecture en très bas âge. Au primaire, au secondaire aussi. C'est pas tout le temps facile, mais je pense que les écoles, de plus en plus aussi, font l'effort d'avoir dans les bibliothèques des livres qui vont intéresser les enfants, qui leur parlera pas d'affaires plates, qui les intéressent pas pantoute. Moi, je pense que la clé est là. Pas mal plus qu'avec une assistance au moment de faire l'examen. Et puis, je vous dirais une chose, ça, regarde, pas tout le monde qui va partager mon opinion, je suis convaincu. Mais je vous dirais que la période actuelle, ce qu'on vit actuellement avec la COVID, les informations complexes à analyser. Je pense qu'une base de mathématiques et de sciences peut aider. Mais je pense que de bien maîtriser le français, de bien comprendre un texte. Quoique dans les chiffres qu'on a ce matin, on dit que la compréhension de texte, les élèves du collégial ont des notes quand même intéressantes. Tu sais, c'est des taux élevés de réussite dans l'aspect compréhension de texte. Mais j'ai des doutes un peu là-dessus en passant. Regardez un peu ce qui se fait comme commentaire sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr qu'on est si fort que ça dans la compréhension de textes et d'articles de journaux ou d'articles scientifiques. Mais je vous dirais que la période qu'on vit actuellement, à mon avis, nous montre qu'une bonne maîtrise et une bonne compréhension du français, elle est primordiale.
À quel moment, puis Alex, t'as quitté les bancs d'école depuis moins longtemps que nous, là, donc je suis certain qu'il y a une réponse à ma question, mais à quel moment dans le cheminement scolaire on aiguise le jugement critique, non?
Jugement?
Oui, ça se fait-tu, ça? C'est-tu en philo, en français?
C'est plus en philo.
Moi, je te dirais que c'est plus... Tout ce qui est,
si t'es un mauvais, bon prof, là, mettre l'accent là-dessus.
Tout ce qui s'appelle monde contemporain, là, genre à partir de secondaire 3 jusqu'à 5, là, fait histoire, géo en particulier, là, où tu passes plus de temps à apprendre, par exemple, c'était quoi la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que ça impliquait, je pense que c'est là. Parce que sincèrement, philo, tout dépendant des profs encore là, en tout cas, moi, quand je te fais pas si longtemps, puis c'était le cours où t'allais là, parce qu'il fallait que tu le fasses, puis fallait que tu passes, là.
Mais les profs, mais tu sais, moi, je pense que aujourd'hui, moi, ça me tannait aussi mes cours de philo, mais aujourd'hui, je réalise que il y a peut-être quelque chose là-dedans, là. Tu sais, de structurer un peu ta pensée, apprendre à raisonner aussi. Secondaire 5, il y en avait peut-être un peu en français, c'est ça, mais pas tant que ça non plus.
Je trouve qu'aujourd'hui, puis pas juste à cause de la pandémie, là, mais de façon générale, avec les médias sociaux, les fausses nouvelles, etc., de dire à des jeunes, on vous dira pas quoi penser. Mmh. On va juste vous outiller pour être capable de manière d'une manière intelligente de vous faire vos propres idées, puis d'analyser une question, un dossier, un enjeu. Et pas juste gober ce qu'on vous dit, etc.
C'est ça.
Ça serait pas mauvais, parce que moi, la philo, tu vois, les souvenirs que j'en ai, c'est très vaseux, là.
C'était, on parlait de Socrate.
J'existe.
Ouais, mais si on l'avait bien fait, si on l'avait pris au sérieux, il y aurait peut-être eu quelque chose, mais c'est parce qu'on le prenait pas au sérieux. On botchait ça, puis le prof nous mettait 62, puis c'était ça, là.
T'as raison. T'sais? Mais en même temps, quand faut que tu récites par cœur, c'était quoi les 10 théories de René Descartes?
Ouais, c'était beaucoup Descartes, Socrate.
Ça mène pas ben à réfléchir. Là, ça s'appelait vomis ce que t'as lu, puis d'attitude.
C'était pas peut-être des profs. Moi, je me souviens qu'il y avait des profs qui nous forçaient un peu à réfléchir et à raisonner un peu plus.
Il n'y en avait pas gros.
C'était... Moi, j'ai étudié en politique aussi au cégep, fait qu'on avait plus de textes aussi, d'opinions à faire, des choses comme ça. Tandis que quand t'es en sciences, il y en a peut-être un peu moins aussi. Là, ça dépend des profils, puis ça dépend des disciplines qu'on étudie. Mais en tout cas, on s'entend-tu que ça n'a aucun Christi de bon sens, ça, de fournir une assistance par logiciel au moment de faire l'examen, je veux dire. Je peux pas croire qu'on est rendu là. Je peux pas croire qu'on n'accorde pas plus d'importance que ça à la maîtrise du français. OK, hey, on doit s'arrêter. Il est déjà midi 41 minutes 25 226 par texto pour nous joindre. 418-670-9330. On vient.